Bonjour à tous et bienvenue dans ce Morning Bull Live. Nous sommes vendredi 8 avril 2022. C'est la fin de la semaine ce soir. C'est le week-end. Enfin! Et puis, comme c'est le week-end, eh bien, on s'est fait un petit reversal encore une fois hier soir aux États-Unis. Ce qui est assez rigolo, c'est qu'on s'est de nouveau fait un truc qu'on connaît bien, un truc un peu sympa, là. Vous savez, les Européens, ils finissent la séance au fond du bac parce qu'on a peur, parce que l'Ukraine ça va pas, parce que l'inflation est là, parce que les taux sont là, parce que la BCE va aussi monter les taux un jour, parce qu'ils ont aussi peur de l'inflation en Europe. Bref, on a les jetons et finalement l'Europe est complètement déprimée. On termine la journée au fond du trou, à la cave, on n'est pas bien. Bon, c'est pas une catastrophe en Europe, mais on est dans le rouge. C'est une sale journée. Les graphiques ont une sale gueule. Les Américains sont dans le rouge. On se dit, ça va mal se finir. Vivement demain soir qu'on puisse partir en week-end. Et puis, là, au moment où on rentre à la maison, où on rentre dans le métro, où on part à la maison pour aller boire l'apéro le jeudi soir à la maison ou ailleurs, on apprend que les Américains, ben, eux, ils sont en train de retourner de direction, de changer de direction et de repartir à la hausse. Alors, on termine pas en boulet de canon, on n'explose pas sur les marchés américains, mais c'est la première fois qu'on voit de nouveau arriver les buy the dip. On vient racheter le trou de nouveau parce qu'on se dit que il y a toujours un petit peu d'espoir. Oui, tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Ce qui est assez rigolo, c'est que finalement, hier soir, eh bien, le marché américain termine en hausse, pas de beaucoup, mais en hausse, avec des reversals un peu partout, sur le S&P, sur le Nasdaq, sur le SOX. Il y a pas mal de choses qui ont un peu tourné. Donc, comme je le disais avant, les gens viennent acheter sur faiblesse, de nouveau. Il n'y a pas grand chose de neuf. Hein, on est toujours dans la même préoccupation. On est toujours stressé par les mêmes soucis. Hein, on digère toujours les annonces de la Fed. Mais en plus, hier, on a dû digérer le fait que la BCE a aussi publié ses minutes à elle et que eux aussi se montrent inquiets de l'inflation en Europe. Parce que jusqu'à maintenant, on était moins touchés, on avait l'impression qu'il y avait moins d'inflation en Europe qu'aux États-Unis et c'était que les Américains qui payaient. Eh ben non, on est en train de rattraper le train. Donc Madame Lagarde est aussi en train de penser à la suite des événements. Alors là, on sait qu'ils vont commencer à changer un petit peu leur politique au prochain meeting de la BCE. Et puis ensuite, on sait que normalement, allez, peut-être sur la fin de l'année, eh bien, quand on sera dans la saison des crashs ou peut-être juste un peu après, eh bien, la BCE devrait également commencer son cycle de hausse des taux parce qu'il faut quand même freiner cette foutue inflation. Bon, malgré tout ça, ce qu'il faut retenir, c'est que les marchés américains ont réussi enfin à tourner un petit peu la veste et à nous donner un petit peu de positivisme après ces deux jours complètement pourris qu'on a vécu sur la tech et puis sur le reste des marchés en général. En fait, c'est assez marrant parce que en même temps qu'il y a ce rebond, qu'il y a cette espèce de mini reversal qui se dessine, cet espoir qui arrive au fond du bois là-bas, ce silver lining, ce lever de soleil qui se dit peut-être qu'après la pluie, il y aura le beau temps, eh bien, finalement, on a quand même beaucoup, beaucoup de commentaires négatifs. Hein. Alors, hier soir, j'ai passé un peu de temps, d'ailleurs là, c'est pratiquement très tôt, très tôt le matin, et j'ai passé un peu de temps cette nuit, on va dire, à lire pas mal d'articles et à voir un petit peu quel était le feeling des marchés, comme je fais régulièrement. Et ce que j'ai appris finalement, c'est que bah, pour l'instant, c'est un peu le pays des ours. Hein. Il y a quand même beaucoup de bears qui sont dehors. Alors les gens en profitent, hein. C'est comme d'habitude, on se prend deux jours de baisse, on tape la moyenne mobile de 200 jours, on repart à la caisse, la volatilité augmente, les gens s'inquiètent, on a peur de hausse des taux, on a peur d'inflation, on a peur de superinflation, on parle de récession, on a les courbes des taux qui s'inversent. Il y a quand même pas mal de choses qui nous permettent de dire du mal et puis dire qu'on va se planter. Donc du coup, bah les gens en profitent. Hein. C'est le meilleur moyen pour se faire inviter sur un plateau télé. Si aujourd'hui vous arrivez que le marché est en train de se péter la figure, qu'on vient de perdre 5 ou 10 ou 15% ou 13% comme on a perdu sur le SOX depuis quelques temps, les gars à la télé, ils ont envie de vous voir venir dire « Attention, on va tous mourir !» Donc ils ont vraiment envie de voir ce genre de choses et c'est maintenant qu'il faut saisir l'occasion. Donc du coup, on a pas mal de gens qui se sont pointés. Alors on a Jeremy Grantham qui est venu, c'est un gros gérant de fonds très très connu aux États-Unis qui est venu à la télé hier pour dire que jamais avec un pic sur le pétrole, eh bien jamais le marché s'en était sorti sans avoir une récession. Donc ce qui veut dire c'est qu'une fois que le baril va au-dessus des 100, dès qu'on a un signal au-dessus des 100 de baril, eh bien systématiquement à un moment ou à l'autre, à un moment donné ou un autre, c'est un signal de récession. Oui, ça je l'avais dit aussi, ça fait un moment mais tout le monde s'en fout quand c'est moi qui le dis. Par contre, quand c'est Jeremy Grantham, on dit « Oh, mais attention, récession ahead !» Donc, on a peur d'avoir une récession. Il l'a dit. Alors, je rappelle pour la petite histoire que monsieur Jeremy Grantham, lui aussi, il est faux 9 fois sur 10. Hein. Il vient régulièrement à la télé, puis « Ouh, ça va mal se finir !» Alors, forcément, à bout de la 30e fois où tu dis que ça va mal se finir, un jour, t'auras peut-être raison. Enfin, bref, Jeremy Grantham était à la télé hier pour dire « Attention, après un pic sur le pétrole, il y a des récessions. » Sans blague. Et puis, puisqu'on est dans la même thématique, eh bien, on a la Deutsche Bank qui a publié de la recherche hier aussi en disant qu'on était en train de rentrer dans quelque chose de très très moche et puis qu'ils prévoient une récession pour 2023. Alors, ils ont fait leur calcul. Hein. On sait que statistiquement, quand on a des signaux indicatifs de récession, comme le pic du pétrole au-dessus de 100, comme a dit Monsieur Grantham, comme les inversions de courbe des taux, qu'on accepte ou qu'on n'accepte pas, qu'ils soient un mauvais timing ou pas un mauvais timing, mais on sait globalement que plus ou moins, eh bien, dans les 9 à 12 mois, allez, on a une récession derrière. Alors, du coup, eh bien, Deutsche Bank est venu dire, on va encore avoir une hausse sur les marchés, on va terminer plus ou moins bien sur le S&P à la fin de l'année, mais alors après, paf, récession, baisse des marchés, correction massive de plus de 20%, la cata totale, bref, en tout cas, ils ont prévu un gros truc l'année prochaine, entre, allez, on va dire, entre sell in me and go away, allez, dans un an, ils nous prévoient plus ou moins une récession et une pétée de figure de l'ensemble des marchés boursiers. Pour l'année prochaine. Alors ça, c'est rigolo, là aussi, hein, parce que depuis des semaines, on a une vision qui a 24 heures, et ça encore, c'est pour ceux qui font du long terme, et puis là, tout d'un coup, eh bien, les mecs, les analystes, les stars de la finance débarquent et viennent nous dire, voilà, maintenant, nous, on voit là, à 2 ans, on peut vous faire des scénarios de mouvement de marché à 2 ans, on n'est pas foutu de voir ce que vont faire les marchés à 10 minutes, mais là, à 2 ans, on voit beaucoup plus clair. Bon, il faut dire que la Fed nous a habitués à ce genre de choses, hein. Depuis quelques temps, la Fed sont venus nous dire, voilà, on va monter les taux là, puis il y a de temps ici, puis de temps là, puis l'année prochaine encore 3 fois, puis après, on va se calmer pendant une année. La Fed nous a montré que eux pouvaient voir à 3 ans, donc du coup, les mecs à Wall Street se sont dit, bah, nous aussi, on peut voir les trucs à 3 ans. Donc du coup, ils commencent à faire des prévisions. Alors le marché va aller là, puis après, au mois d'octobre, il ira ici, puis au mois de décembre, il sera là-bas, puis en février l'année prochaine, il sera ici. Bref, la Deutsche Bank pense qu'on aura une récession l'année prochaine ou qu'on aura une grosse correction. Mais l'année prochaine, d'ici là, on va monter quand même avant. En fait, il se mouille pas beaucoup, hein. C'est un peu comme le gars à la météo qui vous dit, alors il va faire soleil, mais peut-être il y aura de la pluie, mais peut-être il y aura de la neige aussi, donc on sait jamais. Bref, on n'en sait rien, mais la Deutsche Bank a prévu une récession et une grosse correction des marchés l'année prochaine. Dans 12 mois. D'ici là, ça va bien se passer. Et puis alors, on va revenir aussi, parce que le troisième truc de la journée, alors, c'était la théorie du Dow Jones Transportation. Je vous ai déjà parlé de la théorie de Dow, où on dit que quand le Dow Jones Transportation part dans une direction, si le Dow Jones industriel, le Dow Jones classique, le suit, c'est bon signe. Si c'est divergent, ça va pas. Et pour l'instant, eh bien, on a un indice qui est en bear market, et c'est le Dow Jones Transportation. Si on regarde le graphique, bah effectivement, depuis le top du marché, qui date de novembre l'année passée, le Dow Jones Transportation est en bear market, puisqu'il a perdu 21,5%. Donc techniquement, en dessous de 20%, c'est un bear market. Et quand vous avez le Dow Jones Transportation qui est en bear market, ça veut dire que logiquement, le Dow Jones Industrial va finir par le suivre. Donc, c'est une mauvaise nouvelle. Maintenant, j'aimerais juste mettre un petit peu de bémol dans tout ça, parce que j'ai vu ça dans des journaux aujourd'hui, sur plusieurs articles. Ouh, attention, il y a un signal de bear market sur le Dow Jones Transportation, ça a marché super bien ces 100 dernières années. Faites attention, on va tous mourir dans l'atroce souffrance. Oui, bien sûr, le seul truc qu'il faut quand même faire bien attention, c'est que dans l'histoire du Dow Jones Transportation, on a eu un pic qui a fait le top du Dow Jones Transportation. D'ailleurs, à cette époque-là, on s'est excité parce qu'il y avait une cohérence entre les deux indices. Le Dow Jones Transportation faisait un pic à la hausse, le Dow Jones tout court montait. Ouais, c'est génial, c'est un signal bullish. Mais en fait, le Dow Jones Transportation a fait un pic à cette époque-là. Pourquoi ? Parce qu'une boîte qui s'appelle Hertz avait annoncé à l'époque qu'ils allaient acheter 100 000 Tesla. Depuis, on n'en a plus jamais entendu parler, on n'a jamais vu le contrat et on sait même pas où sont ces 100 000 Tesla en question. Ce qu'on sait aussi, c'est qu'entre deux, le titre Hertz a spiké à la hausse, le Dow Jones Transportation a spiké à la hausse pour faire le top au top du top, et puis derrière, tout s'est dégonflé, et on a reperdu 5-6% dans la foulée, à cette époque-là. Donc vous enlevez ces 5-6%, et vous vous remettez en disant que le top serait 5-6% plus bas qu'il n'a été en novembre, aujourd'hui on n'est pas en bear market. Donc il faut peut-être pas trop paniquer tout de suite, parce que cet indice, par rapport à la manipulation qui s'est passée en novembre l'année dernière, eh bien, à mon avis, il est un tout petit peu faussé. Donc, il faut être peut-être savoir encore un tout petit peu raison garder. Et quand moi, je vois le graphique qui s'affiche devant vos yeux ébahis et écarquillés, eh bien, moi, j'achèterai à ces niveaux parce que ça m'a l'air plutôt pas mal à tenter comme rebond sur le Dow Jones Transportation. Et si on n'était pas en bear market, et si justement, on avait été testé cette limite un peu grise avant le bear market pour dire, ouais, ça, c'est une zone d'achat. Donc voilà, si je regarde le marché hier soir, en fin d'après-midi version européenne, il y avait tous les bears qui étaient dehors. C'était vraiment le pays des ours. Hein. Ça se baladait dans tous les coins, ça s'échangeait des pots de miel dans tous les sens. C'était bear market ahead. Attention, les ours peuvent arriver de tous les côtés. Et puis, Je reviens 2 heures plus tard à 22h01 et là je vois que les indices ont réussi à se retourner. Le buy the dip est revenu dans le marché et finalement on s'en sort pas trop mal. Alors on va faire ça du jour après jour, on n'en sait foutrement rien ce qui va se passer derrière. Mais en tout cas, j'ai l'impression qu'on s'est sorti une belle épine du pied hier soir pour l'instant. Jusque là, on va dire ça va. C'est un peu comme le mec qui tombe du 30e étage quand il passe devant le 15e, on lui dit ça va. Jusque là, ça va. C'est après que ça va se gâter. Il y a encore 2-3 petits trucs qu'il faut retenir, c'est que hier soir, Madame Yellen a parlé de nouveau, elle a fait son speech sur le Bitcoin cette fois. Donc elle a dit qu'il fallait créer des réglementations. Sans blague. OK, pas de grande nouvelle, le Bitcoin a à peine réagi. Pour l'instant, on est toujours en phase de je sais pas trop où j'ai envie d'aller. Techniquement, moi j'ai envie de dire que entre la zone des 41 500 et des 42 500, j'achèterai le Bitcoin pour jouer un rebond en direction des 50 000, et puis s'il casse au-delà en dessous des 38, je me stoppe et j'abandonne le truc. Mais techniquement, j'ai l'impression qu'il est en train de nous faire un pullback après sa cassure du triangle qu'on voit bien sur le graphique, et qu'il est en train de tenter de se construire pour repartir à la hausse. Et puis comme effectivement, les déclarations de Madame Yellen nous ont pas non plus amené dans un truc monstrueux et angoissant, peut-être il y a encore un petit peu d'espoir là-dessus. Enfin, moi j'y crois, j'ai assez envie de jouer cette thématique de ce côté. Et puis il faudra noter aussi que hier soir, il y a eu les jobless claims aux États-Unis, 166 000 créations d'emplois, c'était en dessous de ce qu'on attendait, c'est assez bas, c'est assez faible. C'est globalement une bonne nouvelle, puisque ça veut dire que les gens ne vont plus demander des indemnités chômage, de moins en moins de gens y vont. Le seul problème qu'on a là derrière, c'est que pour l'instant, les bons chiffres économiques encourageants pour l'économie, eh bien c'est une mauvaise nouvelle. Oui, parce que si l'économie est trop forte, eh bien c'est inflationniste. Et si c'est inflationniste, qu'est-ce qu'ils vont faire la Fed? Ben ils vont devoir monter les taux. On a toujours intégré nos 0,5 au mois de mai, mais là on est en train de paniquer pour les 0,5 pour le meeting d'après. Donc du coup, toutes ces bonnes nouvelles économiques sont soudainement des mauvaises nouvelles. Et puis on notera aussi, toujours par rapport à la Russie et à l'Ukraine, alors pour l'instant on en parle beaucoup moins, alors on en parle dans les médias bien sûr, mais beaucoup moins du côté marché financier. C'est pas que je veux pas en parler, c'est pas que j'ai rien à dire sur le sujet, simplement le fait est que pour l'instant, les gens qui font de la finance, là tout de suite, l'Ukraine et la Russie, c'est pas le truc qui nous intéresse le plus. Mais on va quand même retenir une chose, c'est qu'on parle beaucoup du défaut de la dette russe. Hein. Depuis cette semaine, les Américains ont interdit la Russie de faire leur paiement des coupons via les banques américaines en dollars. Donc du coup, ils peuvent plus rembourser. S'ils peuvent plus payer leurs coupons, ben ils sont en défaut. Donc on dit que statistiquement, aujourd'hui, enfin, c'est ce que les experts en dette obligataire disent, c'est qu'il y a 94% de chances que la Russie fasse défaut dans les 30 jours. Alors, 94%, hein, pas 95%. Pas 93,2, pas 98,7, même pas 99,5, 94%, ça rigole pas, parce qu'il faut pas plaisanter avec les algos. Voilà, écoutez, c'est vendredi, moi je vais prendre le train, je pars en week-end, je me réjouis de vous retrouver la semaine prochaine en pleine forme, comme d'habitude, j'espère qu'il y aura plein de nouvelles choses à apporter, plein de nouvelles discussions à aborder sur le monde merveilleux de la finance. La semaine prochaine, on a la saison des résultats qui commence, ça va nous faire plein de choses à dire, on va pouvoir parler plein d'autres trucs, on va peut-être sortir un petit peu de la thématique de l'inflation, peut-être un petit peu plus de la thématique Ukraine-Russie, et puis on espère que si jamais ils pouvaient faire des pourparlers de paix, ça arrangerait tout le monde accessoirement, mais pour l'instant, on va espérer qu'il y aura des nouvelles choses la semaine prochaine, donc moi j'espère. Parce que là, je suis un peu fatigué de parler d'inflation et de hausse des taux. N'oubliez pas de vous inscrire à la chaîne Swiss Code Suisse, parce que la semaine prochaine, on passe les 16 000 abonnés, ça c'est une promesse. Et puis, likez cette vidéo, partagez-la, parlez-en autour de vous, et puis revenez me voir lundi matin, parce que sinon, qu'est-ce que je ferais sans vous? Bon week-end à tous, bye bye.